chair de la dent des chèvres.
On se bouscule beaucoup là dans le studio Jean-Michel Jarre de Radio Nova pour vous poser des questions. Je vois Ariel Wiesmann qui s'agite au fond.
Est-ce que vous avez des décisions capillaires comme ça spéciales pour aller à la radio?
Non, que ce soit à la radio ou à la télé, j'ai toujours la même coupe de cheveux extraordinaire, magnifique, aussi belle que moi.
Vous pouvez la décrire un petit peu pour les gens qui ne voient pas bien.
C'est une espèce, il y a une espèce de couronne avec des spikes sur la tête, donc ça, il y a des espèces de racines punk de là-dedans, et en même temps, c'est très ce qui est dans mon travail, c'est-à-dire des racines punk, quelque chose qui est pas du tout conforme à ce que font les autres, assez hardcore,
et en même temps quelque chose de très travaillé,
ce que je voulais dire aussi, très formel. Et c'est ce mélange des deux dans mon boulot que j'aime bien, c'est-à-dire c'est pas du punk bête et en même temps c'est pas du formel sous culture Télérama, quoi.
Daniel Prévost,
pourquoi êtes-vous venu habillé comme ça?
Je suis toujours habillé comme ça.
Alors c'est pareil, parce que tous les aveugles qui écoutent la radio...
Je suis tout en rouge, là j'ai un futal... J'ai un futal en cuir rouge, j'ai des Docs Martens rouges, j'ai un mouchoir rouge, j'ai un bracelet de force avec une montre rouge, un téléphone rouge, voilà.
Jacques Chancel,
vous n'êtes pas ridicule.
J'espère l'être un peu aux yeux des plus imbéciles parmi mes contempteurs.
Non, mais Jacques n'est pas un imbécile, c'est juste qu'il n'est pas habitué.
Non, il est un peu vieux, c'est tout, à son âge, tu sais, on n'est plus habitué.
Henri Chapier.
Quel garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans?
Pas un garçon pour toi, mon grand.
Non, attendez, qu'est-ce
c'est
que c'est
pas Michael
ça,
Jackson, c'est Henri Chapier.
Absolument. Javel Debbouze.
Et un jour, tu t'es dit, bon, tiens, je vais écrire un bouquin.
Ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit, pour aller plus loin dans ma quête artistique, comme j'avais déjà fait des spectacles d'une heure et demie, pour aller vite, si tu veux, moi je dis à peu près toujours les mêmes choses depuis longtemps, ma haine du monde, mon dégoût de la médiocrité, de ces choses-là. Si tu fais toujours, au début j'ai commencé dans les chansons, si tu continues indéfiniment à faire des chansons, tu fais toujours la même chanson, c'est ce qu'ils font tous mes collègues. Ouais. Donc à coup je suis passé à faire un spectacle qui faisait une heure et demie au lieu de faire un format de 3, 4, 5 minutes, c'était complètement autre chose, je disais la même chose, mais j'avais renouvelé la forme, et là j'ai fait un roman de 364 pages, je vais te faire quelque chose d'une heure et demie, donc en fait...
Ça s'est jamais fait, je crois, 364 pages.
Non, c'est la première fois. La première fois, parce que les autres, ils avaient fait 366 ou 362, et ils avaient des livrets spéciaux pour
vous. Vous êtes fort.
Je suis très fort, voilà, donc moi j'étais juste l'évolution de mon travail, je cherche des nouvelles formes, puisque le fond change pas, bon, c'était à la fois un nouveau défi pour moi, et amusant, et une façon de progresser en mûrissant.
Tristan et Dernevaquette, vous n'en voulez pas à Jacques Chancel, non?
Non, j'en veux à personne.
Vas-y,
je l'aime.
Alors tu peux y aller.
Que vous le vouliez ou non, vous êtes devenu un personnage. Il y a ce livre, votre premier roman, qui est un livre qu'il faut avoir lu, et vous êtes devenu, peut-être malgré vous, et romanesque et héroïque. C'est un livre qui paraît important. Est-il facile de méditer sur le destin des grands rêves?
Alors, il y a plein de questions dans la question. Est-ce que je suis devenu un personnage? Ça, c'est un truc, l'un des plus amusants dans mon travail, c'est l'idée que le personnage, qui est un personnage de scène, sort de la scène. C'est-à-dire, par exemple, il y avait quelque temps la grande cantatrice pseudo-allemande, là, qui était, je sais pas si tu vois, Marianne Segel, je sais plus quoi, qui faisait...
La grosse, qui était complètement délirante.
Et un jour, j'ai vu dans une émission...
La grosse femme pseudo-allemande,
Un jour, je l'ai vu dans une émission, et elle était absolument normale. Elle disait, mais non, moi, je suis une comédienne qui joue un rôle. Et ça m'a un peu choqué, moi, l'idée de dire je suis Vaquette sur scène et je suis Vaquette hors la scène, et dans mon roman, c'est l'histoire du plus grand héros que la résistance française ait connu, c'est encore moi Vaquette. Et oui, c'est-à-dire qu'au moment d'existence, tout le monde s'en fout, c'est ça que je reproche à la littérature branchouille de maintenant, c'est que les pauvres petits cons qui ont une vie minable, qui te racontent leur pauvre petite vie minable, mais moi ça ne m'intéresse pas, je pense que ça intéresse pas grand monde. Donc moi ce qui m'intéressait, c'est de raconter l'histoire d'un personnage fabuleux et mythique, et de là je l'incarne, mais bien sûr avec une distance, je suis pas Barjot et je suis pas ni schizophrène ni mytho. Donc il y avait cette première question, Jacques, et la deuxième partie de la question, c'est
mais
quoi c'est la vie
sur le destin des grands rêves,
c'est effectivement une des choses très intéressantes, et je trouve que dans notre époque très matérialiste et très l'apologie de la médiocrité, tout se vaut, ouais, tout est cool et finalement faut rien faire, la perte des grands idéaux, tout ça, retrouver un certain souffle et une certaine volonté de croire à des grandes choses me paraît quelque chose de pertinent et d'intéressant par rapport à notre époque.
Pascal Clark.
Pourquoi faire apparaître votre immense documentation dans ce roman? Pourquoi ça?
Il y avait deux raisons, quoi. Alors, moi, d'une part, je voulais typer un personnage qui était l'archétype de l'imposteur, donc le mec qui a plein de culture, qui est un mec très intelligent, très culturé, donc il passe son temps à parler en citation, et je voulais en montrer au bout du compte que c'était vraiment une baudruche qui se dégonfle. Il y a un moment dans le spectacle, je dis, les 99,9% des gens répètent. Alors, bien sûr, quand on répète PPD, ça, à bac moins 12, ça fait très con. Quand on répète Klosowski à bac plus 69, ça fait très bien, mais pour moi, le singe est le même. Et je voulais montrer que ce personnage qui avait l'air brillant, merveilleux, tout ça, était en fait un imposteur qui ne savait que répéter. répété comme les autres. Donc c'est la première raison. Et puis c'est vrai aussi qu'il y avait des citations de que j'avais envie de placer, donc j'ai utilisé aussi cet artifice pour les placer.
Ouais, et
de toute façon
pour brancher des filles après.
Alors, pour brancher des filles après. Non, je suis pas Louis Danner. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi le fait qui est un truc typique dans mon travail de dire moi je viens de. Tu vois, il y a quelque temps tu as reçu ici Jean-Pierre Mocky.
Ouais.
Moi je suis là pas parce que les profs de l'école où mes parents m'ont élevé. Je suis là parce que Jean-Pierre Mocky m'a élevé, parce que les Bérus m'ont élevé, parce que Léon Blois m'a élevé. Et ça c'est une façon de dire aussi, pas de faire un clin d'œil, mais de dire voilà je viens de quelque chose et je vais à quelque chose et de faire des citations, même si j'espère que j'en abuse pas trop, et une façon de signaler ça.
Alain Finkielkraut,
quelle place faites-vous dans cette description de l'utopie toujours présente ou renaissante à un phénomène qui est celui du surgissement de la revendication identitaire, voilà, qui n'est pas tout à fait conforme au schéma de l'utopie communiste, où tout de même les hommes se réconcilient par-delà leurs différences, une fois qu'ils se sont exaucés au-dessus d'elles, au terme justement d'un processus historique qui accouche de l'universel, sans la médiation des particularités, là, car il y a là quand même comme une sorte d'utopie du relativisme culturel, si j'ose dire.
Oui.
De la réconciliation de relativisme culturel qui a quelque chose de peut-être...
Je peux y aller alors prendre un café.
C'est... Oui.
Ah, vous avez fini, Anne.
Pardon. Donc, Oui.
Ben, vous êtes d'accord.
Bon, ah oui.
C'est probablement la première fois que vous êtes d'accord.
Tu sais que le jour où on fera la vraie révolution que j'espère de mes voeux, c'est le jour où Alain Finkielkraut arrivera et dira « Je suis philosophe » et tout le monde fera « Waouh !» Après, t'auras Luc Ferry qui dira « Je suis ministre, casse-toi !»
Nous y travaillons beaucoup ici.
François Morel.
Vous êtes un peu, quand même, un écrivain parisien, on peut dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des romans ruraux? Est-ce que vous seriez capable d'écrire un roman rural?
Je n'ai aucune idée. J'espère pas être parisien dans le sens parisianiste branché. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. J'ai mis les pieds une fois au Café de Flore pour signer mon contrat d'édition avec mon éditrice. Je connais pas cette ville, je la vomis. J'ai fait 30 ans de banlieue Est et aujourd'hui, j'habite au fin fond de l'Auvergne.
Est-ce que vous pensez pas que c'est un discours un peu majoritaire ce que vous dites là?
Non, d'une part non, et d'autre part rien d'autre.
Attendez, parce qu'on déborde le temps. Henri Chapier, une dernière question quand même.
Tu fais du ski, toi?
Donc ça c'est simple, on peut dire oui.
Oui,
d'accord.
Voilà,
très bien. Alors on vous retrouve dans quelques instants, Tristan et Bernd Baquette. Voilà, pas de débat entre vous. Vous êtes
prêts?
Dans quelques instants, François Morel, Ariel Wiesmann, vous pouvez aller acheter des sandwichs, etc. Vous revenez dans quelques instants, Tristan et Bernd Baquette, et on continue à parler de Je gagne toujours à la fin aux éditions du Diable Vauvert. François Morel.
Le poète et écrivain Francis Lalanne a dit « On entre en littérature comme on entre dans les ordres ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là?
Oui, rien que le mot Francis Lalanne me fait rire, et tu m'excuses. Ça fait un peu bidon comme formulation, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je reproche à la plupart de mes collègues, c'est de pas avoir de... Ils se sont fait ça parce que juste c'était fainéant, ils n'avaient pas envie de bosser. Moi, je pense qu'il faut faire ça quand on a une foi et envie de dire des trucs et de bouger les choses et de foutre une vraie merde.
Ariel Wiesmann.
Tu préfères les fascistes ou les humanistes?
Pour faire les fascistes.
Ça c'est... Oh. Vous êtes
un voilà. Exprès, là.
Jean-Marc Morandini.
On vous trouve hautain, prétentieux, méprisant, méchant.
Ouais, c'est vrai.
Thierry Ardisson.
Vous affirmez même avoir mangé de la cervelle d'enfant.
Et c'est vrai aussi.
C'est vrai aussi. C'est incroyable. Thierry Ardisson,
vous
voyez.
Est-ce que vous aimez la drogue?
Non, je ne prends aucune drogue, je suis un pur straight edge, voilà.
Bravo. C'est bien, c'est un exemple à suivre pour la jeunesse. Donc,
je pense que la rebellitude, c'est pas de prendre ni de la coke, ni du teuteux, ni des conneries comme ça.
Et pourtant, Patrick Poivre d'Arvor.
On sait que vous avez été l'ami de François Sagan, de tout un monde ancien. Au fond, quand vous regardez galoper tous ces jeunes, vous dites pas finalement, c'était mieux de mon temps.
Le grand résistant qui est dans le livre Je gagne toujours à la fin,
oui.
Le héros de la résistance française, c'est dit.
Non, si tu veux que je te retourne la question habilement, je te dirais que de mon temps, quand j'avais 17 ans et qu'on était en plein dans le punk français, je trouvais que oui, il y avait plus de choses. Aujourd'hui, on vit une époque d'un conformisme particulièrement pesant où il n'y a plus rien d'alternatif, il n'y a plus de canard genre le harakiri d'époque. Je veux dire, ce qui définit notre époque, c'est ça. C'est qu'il y a 30 ans, il y avait Charlie Hebdo, qui était un journal qui balançait rigolo et nouveau. Aujourd'hui, il y a Charlie Hebdo, un journal de centre-gauche, merdique, mauvais, qui en plus n'a même pas eu l'originalité de trouver un nom à lui. Voilà, c'est ça notre époque. On est une époque d'un conformisme et d'un obscurantisme absolument... C'est pour ça qu'il faut que ça pète un bon coup.
Jacques Chancel.
Vous étiez surtout l'ami du général.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai aussi tout ça.
J'étais l'amant du général aussi, ce qui est moins, c'est tu vois, ce couple-là, et nous passions des heures et des heures à colomber les deux églises, enlacées dans leur temple, c'était bon dans les champs.
François Morel.
Est-ce que vous ne trouvez pas injuste que vous n'ayez pas eu le prix Goncourt?
Si. Je trouve que c'est absolument injuste, car si le prix Goncourt est censé être au meilleur écrivain de l'année, eh bien il aurait dû être à moi.
Et le prix de Flore?
Et le prix de Flore, parlons-en. Mais le prix de Flore, il est censé être à donner au roman le plus moderne et le plus arbre de l'année. Moi, je suis en train de lire le Méro qui l'a eu, c'est à péter de rire. Je vais te dire, rien. Mais c'est pas vrai, j'aime pas personne. Moi, j'aime Coste, j'aime Singles, j'aime plein de choses. Mais pas cette saloperie-là. Le Méro, je vais te dire juste deux choses pour que les gens l'achetaient pas. Le bandeau dessus, c'est ne pas aimer la règle, aimer est exceptionnel. Déjà, t'as vachement envie de le lire. Et derrière, il y a Pierre Méro est né à 40 ans à Paris. Voici l'histoire d'un homme né à 40 ans et à Paris.
Oui,
c'est insupportable, cette merde. Ta pauvre vie de merde, on s'en fout. Tu vas crever, en plus, c'est écrit avec un balai de chiottes. Va pourrir. Et franchement, honnêtement, mon roman, il est un milliard de fois mieux, il est moderne, il rentre dans la gueule, il rock'n'roll, il y a des choses à dire. Va pourrir Méro, il va pourrir Bette Bélier qui lui a donné le prix, je t'encule.
Jacques Chancel, faites quelque chose.
Quelle valeur défendez-vous?
On va aller vite, la liberté individuelle, le fait de s'abstraire de toutes les contraintes, qu'elles soient effectivement les contraintes d'un pouvoir policier, des choses comme ça, mais également les contraintes de la morale commune, les contraintes de ce que font les autres. Un artiste, par exemple, un artiste qui fait le même roman avec des histoires de jeunes cons dans les boîtes de cocaïne que l'autre d'avant, c'est pas un artiste, ça. C'est un copieur, et un artiste, c'est l'opposé d'un copieur. Voilà, c'est aussi ça de s'abstraire pour aller vers son monde à moi, vers son monde à lui. Moi, mon travail, il plaira peut-être pas à tout le monde, mais enfin, il est unique. Ce qu'il y a sur scène, ça ressemble à rien de ce qu'ont fait les autres. Mon roman, il ne ressemble à rien de ce qu'a pu sortir cette année, je le jure, ni sur le fond, ni sur la forme. Ça, c'est la première chose, et ça, c'est le vrai travail de chaque être humain, s'abstraire des codes pour se trouver soi.
Vous êtes un vrai quepon et on va voir si vous arrivez à répondre à une autre question de punk. C'est notre nouvelle séquence de l'émission qui s'appelle Questions de punk, où ce sont donc des punks qui échangent des
propos. Les punks parlent aux punks.
Voilà.
Nova, le working progress.
20 minutes, les plus chers de la bande des
fêtes. J'étais encore trompé de jingle. On avait dit que c'était le jingle Questions de punk.
Ah, mais je suis encore mille empirique.
Tristan et Dern Vaquette, le livre Je gagne toujours à la fin. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons voir si vous allez réussir à gagner face à cette question très compliquée de Loïc Dury.
C'est plus important que des blaireaux que t'aimes, que plutôt que des gens que tu vénères, t'aimes?
Non, que c'est plus important des gens que je vénère, pas dans le sens énervé, hein, dans le sens que je...
Vous nous prenez l'erreur, ça y est.
Ouais, ça dépend comment ça se comprend. Ah. Si tu veux des gens que je vénère pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est un truc. Moi, ce soir, après le spectacle, je dîne avec Vérole, le chanteur des cadavres.
Ça donne envie, hein. Ça donne
hier soir, j'ai passé la soirée avec Karim Berouka des Ludwig. Je suis dans 15 jours l'invité d'honneur de Jacques Lipchin, qui est pour moi le plus grand metteur en scène de théâtre français. C'est un des trucs, qui est très important pour moi, avoir la reconnaissance de mes pairs. Ça peut sembler ridicule.
Donc là, c'est plus important que des blaireaux que t'aimes. Enfin, c'est plus important.
Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je préfère des gens qui me rendent très énervé, même bien? Non, des gens qui me rendent très énervé, même bien, ça m'énerve aussi.
Vous en énervez beaucoup, mais.
J'espère. Là, j'ai eu un super papier d'insultes sur mon bouquin par la présidente du fan club de Mylène Farmer, Caroline B. Jure que c'est vrai, voilà. C'est la classe.
C'est la meilleure pub pour le bouquin, qui est toujours à la fin, qui en effet est un bouquin qui est très complet, plein de digressions, très bien écrit. C'est vrai, Tristan et Dern Vaquette, merci beaucoup d'être venu. On rappelle quand même que vous êtes aussi ce soir et demain soir à Paris, au 88 rue de Ménilmontant,
20h15.
Métro Gambetta, 20h15, c'est à la miroiterie, c'est donc un squat qui va fermer après qu'on ait dit cette information à l'antenne, et c'est dommage.
Sauf si notre gentil flic vient protéger de son corps.
Ah oui, son corps.
Un corps de flic.
Merci Tristan et Dern Vaquette.
Merci.